regarder, qu'on regarde ensemble les différentes personnes qui étaient à la croix. Et qu'ils faisaient, et ce que ces personnes-là faisaient lors de la crucifixion de Jésus. Donc on va prendre le chemin de la crucifixion dans Jean 18 et dans Jean 19. Il y a pas mal à lire, mais je sais que le Seigneur va nous fortifier dans notre lecture. Ça va ? Alors, on va commencer au chapitre 18. Après avoir ainsi prié, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit. Tes amis savent où tu vas te reposer. Hein. Car Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et des pharisiens, et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. Il s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Alors Jésus dit « C'est moi », leur dit-il. Au milieu d'eux se tenait celui qui le trahissait. Au même moment où Jésus leur dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Alors, le « C'est moi » qui est écrit dans la lettre de Jean, c'est le même « Je suis » que Dieu a prononcé devant Moïse. C'est comme si Dieu proclamait sa divinité à ce moment-là. Qui es-tu ? Moi je suis, c'est tout. C'est ce qu'il a dit à Moïse avec le buisson ardent. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ouais, hein. Eh bien Jésus, il proclame sa divinité, les gens tombent. C'est extraordinaire, moi je trouve. Alors une seconde fois, il leur demande, quand ils ont sans doute repris leurs esprits, « Qui cherchez-vous ? » ?»« Jésus de Nazareth, répétèrent-elles. » « Je vous ai dit que c'était moi, » reprit Jésus. « Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. » Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Simon Pierre, ah ça j'aime bien Simon Pierre, qui avait une épée, la dégaina en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Alors je voudrais bien que vous imaginiez que quelqu'un qui a une épée, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un portait un pistolet. Alors je sais que ce serait beaucoup plus réaliste aux États-Unis parce que là le port d'armes est légal, mais imaginez que vous avez un ami qui porte une arme sur lui la plupart du temps. Est-ce que c'est pas un petit peu spécial ? Et alors qu'on vient vous arrêter, cet ami, il sort son pistolet et il vise la tête de la personne qui essaie de vous arrêter. Ça, c'est Simon Pierre. Donc vous imaginez, il était rough, comme ils disent en anglais. Il était un peu brut comme ça. Hein. Et vous imaginez bien que s'il coupe l'oreille droite, il visait pas l'oreille. On se rend compte de ça. Et alors Jésus, dans toute sa patience, il dit « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ?» Extraordinaire. Alors la corde et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Alors, à Jérusalem, le beau-père et son beau-fils, c'était une histoire de famille. Alors, on a lu, il y a des érudits qui parlent de Anne, cet homme-là qui avait été grand prêtre avant Caïphe. Hein, le grand prêtre, c'était vraiment celui qui représentait Israël au niveau des sacrifices. C'était quelqu'un d'influence. Et malgré que son beau-fils était déjà venu grand prêtre, vous remarquez qu'on va lui apporter quand même Jésus. Ça veut dire qu'il avait encore une influence sur toute cette histoire. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple au lieu que tout le peuple. Le premier reniement de Pierre. Simon Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre et ils entraient en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors près du portail. L'autre disciple qui connaissait le grand prêtre ressortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?»« Alors non, Pierre, répondit-il, moi je ne le connais pas. » Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid et ils se tenaient tout autour pour le réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. De son côté, pendant ce temps-là, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans les cours du temple où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. » Pourquoi donc m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant « C'est comme ça que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, montre-moi où est le mal. Mais si ce que je dis est vrai, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya à Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Simon Pierre se tenait toujours au même endroit et il se chauffait. Quelqu'un lui dit « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant « Non, moi je ne le connais pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Alors moi je ne comprends pas très bien Pierre à ce moment-là, parce que c'est la personne qui a essayé de défendre Jésus devant 10 gardes, et quand on lui demande de publiquement confesser Jésus, il perd tout son courage. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Mais Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq se mit à chanter. De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui avaient amené Jésus n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pouvoir manger ainsi au repas de la Pâque. Les Juifs ne pouvaient pas aller chez les non-Juifs, sinon ils devenaient impurs. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme? Pourquoi est-ce que cet homme, il est devant moi ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après vos lois. » Mais lui répondirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Donc déjà, on peut comprendre ici que le but des sacrificateurs, c'était de faire tuer Jésus. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont dit-il cela à mon sujet ?» répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta nation et les chefs de tes prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus lui répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume, il n'est pas d'ici. » Alors Pilate était un espèce d'intendant qui venait de Rome. C'était quelqu'un qui représentait Rome et qui vérifiait que tout se passait bien dans la région. Donc, il est tout à fait évident que Jésus, il en avait déjà entendu parler. Jésus, il avait été pris pendant un moment, on peut voir ça dans Jean 4, 5, 6, il avait été pris par des foules, on l'avait suivi, on avait cru qu'il allait faire une révolution, une rébellion, chasser les Romains. Alors moi, je peux vous garantir que Pilate, il avait entendu parler de ce Jésus. Il avait aussi entendu sans doute que cet homme, il accomplissait des signes et des prodiges, que ce n'était pas n'importe qui. « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. »« Qu'est-ce que la vérité ?» lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Ici, on a un païen qui témoigne que Jésus est innocent. C'est extraordinaire. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je relâche le roi des Juifs? Ils lui répondirent en criant, non, pas lui, Barabbas. Or, Barabbas, c'était un bandit, c'était un truand, en fait. Jean 19. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ces soldats. En s'avançant au-devant de lui, ils s'écriaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Imaginez ces hommes qui frappaient le sauveur de l'humanité. Pilate sortit de nouveau du palais et dit au chef des Juifs « Voilà, je vous le fais amener ici dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Alors, il a essayé de calmer la colère des sacrificateurs et des pharisiens en faisant torturer Jésus. Jésus parut donc dehors portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme ». En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le ! Crucifie-le ! Vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate, et le crucifier vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Le chef des Juifs répliquèrent, Nous, nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le fils de Dieu. Dans la loi juive, il est marqué que c'est un blasphème de dire qu'on est le fils de Dieu, évidemment. Hein, c'est comme se comparer à Dieu lui-même. Ses propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus, « D'où viens-tu ?» Mais Jésus ne donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit, « Comment ? C'est à moi que tu refuses de parler, tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier ?» Jésus lui répondit, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Moi, je pense que Pilate, c'était un homme religieux. C'était un Romain, donc il devait avoir probablement 20-25 dieux différents, et c'était un grand polythéiste. On lui amène un homme qui a accompli des prodiges et des miracles. Il ne veut pas la responsabilité de tuer quelqu'un qui pourrait faire ces choses-là. Mais il est pas juif, il n'a pas connaissance de ce Messie qui doit venir. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les chefs des Juifs redoublèrent leurs cris. « Si tu leur relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. » Là, ça devient de la manipulation politique, parce qu'ils savaient très bien que Pilate, c'était le représentant de César en Israël, et que cette corte-là, elle était très sensible. Quand il a entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus au dehors et s'assit à son tribunal, au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabata. C'était la veille de la semaine pascale. Vers midi, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils se mirent à crier, « à mort, crucifie-le, c'est votre roi !»« Est-ce que je dois le crucifier ?» répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » À ce moment-là, les prêtres viennent de reconnaître César comme leur roi, mais depuis le début de l'histoire d'Israël, leur roi, ce que Dieu essaie de leur faire comprendre depuis le début, c'est que leur roi, c'est Yahweh. Que la nation d'Israël n'avait pas besoin de roi. La croix, elle révèle tout, hein, toutes les intentions des gens. Alors Pilate leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau qu'on le fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate, il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. La loi romaine permettait aux soldats, lorsqu'ils tuaient quelqu'un, de se partager les vêtements et les affaires de la victime. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de déchirer, tirons la tunique au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait la mère, Marie, la mère de Jésus, la sœur de sa mère également, qui s'appelait également Marie, c'était la femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère à côté d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Jésus est sur la croix, en train d'agoniser, et qu'est-ce qu'il fait ? Il pense aux autres. Est-ce que vous n'avez pas déjà remarqué que sous pression, notre vrai caractère y ressort ? À partir du moment où on a des tout va bien, c'est facile. C'est pas difficile, mais à partir du moment où la vie devient difficile, où il y a de la souffrance, notre vrai caractère, il sort. Il émerge. Et là, Jésus sur la croix, en train d'agoniser. C'était de l'étouffement, une crucifixion. Donc imaginez, chaque parole coûtait à Jésus énormément. Mais lui, il pense aux autres. Il dit au disciple, voici ta mère. À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, bien sûr, ce disciple-là, c'était Jean. Hein, c'était celui qui a écrit le livre. Après cela, Jésus, sachant que tout désormais était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, Les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour leur demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Pourquoi est-ce qu'on brisait les jambes? Parce que les gens qui étaient sur la croix, ils se maintenaient en vie en poussant sur leurs jambes, ce qui leur permettait de respirer. Donc pour accélérer la mort, on brisait les jambes. Mort horrible. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans sa côte, sans doute pour aller toucher le cœur, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il a dit la vérité pour que vous aussi vous croyiez. Jean, il était là, il a vu tout ça. En effet, tout cela a réalisé pour que se réalise cette parole de l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare « Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé. » Jésus mis au tombeau. Après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Ils étaient aussi disciples du Seigneur, mais ils s'en cachaient par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également, celui qui, auparavant, était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kg d'un mélange de myrrhe et d'aloès, ce qui était probablement très cher. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire et y mettant des aromates selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Qui était à la croix ? Il y avait les sacrificateurs, des gens à qui Jésus faisait peur. Ils voulaient se débarrasser de Jésus car celui-ci parlait de la loi d'une nouvelle façon. Ils ne savaient pas comment le bloquer. Ils avaient essayé de le piéger dans le passé, de l'adresser en public, d'essayer de le descendre par la joute verbale, de le ridiculiser. Ils n'avaient pas réussi. Les sacrificateurs, ce sont les gens religieux, les pseudo-politiciens qui aiment le pouvoir. La vérité de la croix révèle les attitudes de chacun. Les leurs étaient de vouloir le pouvoir de ne pas être enlevé. Leur pouvoir était trop important pour eux, ils voulaient le garder. Quelles sont nos intentions face à la croix? Qu'est-ce que la croix révélerait si on était devant? Pilate est un autre personnage qui se voit mis en lumière par la croix. Il se retrouve embarqué dans une histoire qu'il dépasse totalement. J'imagine Pilate, ça le dépasse. Il fait mettre une pancarte pour faire savoir à tous que Rome était souverain. Des foules en délire, ça ne ferait pas un très bon rapport pour Rome, pour lui en tant que consul. Si on apprend qu'il y a des soulèvements en Galilée, en Jérusalem et dans la Samarie, ça aurait fait très mal. Et il réussit à tirer son épingle du jeu. On lui amène un homme qui a accompli beaucoup de prodiges et d'actions chez les Juifs. Quelle est l'occasion de le ramener à sa cause? Pilate donne l'occasion à Jésus de le sauver. En 3-4 occasions. Il essaie il le défend devant les Juifs. Il lui dit qu'il est capable de ne pas le faire crucifier. Il essaye de ramener cet homme qui faisait des prodiges et des miracles de son côté. C'est un politicien. Pilate se voit comme souverain et il offre de délivrer Jésus. Cela aurait servi les intérêts de Pilate de pouvoir avoir le fameux Jésus dans son contrôle de la région. Jésus refuse son aide. Il sait qu'il est le véritable souverain, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Il exprime même que le seul pouvoir que Pilate possède est celui que le Père a bien voulu lui confier. Alors Pilate trouve une autre façon de soumettre la foule et il laisse Jésus être crucifié. Une inscription apparaît, Jésus, roi des Juifs. Il ne savait pas qu'il écrivait la vérité. Mais les sacrificateurs ne s'attendaient pas à ce que Pilate tire son épingle du jeu. Mais il y arrive. Et Jésus est là pour convaincre chacun que si un roi se lève au milieu des Juifs, et ça c'est son destin. Il a pas laissé Jésus crucifié pour les Juifs, il a laissé Jésus crucifié pour qu'il n'y ait plus de soulèvement. Parce que si on met « il a dit c'est le roi des Juifs », ça veut dire qu'on le punit à cause de la loi. Il serait tellement facile d'utiliser l'Église comme un endroit pour obtenir le pouvoir ou nourrir son orgueil, en oubliant que ce que nous possédons, nous le devons à Dieu. C'est ça que Pilate il oublie, hein. c'est que ce qu'il doit, il le doit à Dieu. La croix met tout en lumière, les intentions et les désirs de chacun. Qu'est-ce que la croix aurait mis à jour chez nous ? Bien que ce sacrifice soit dans un contexte personnel, la croix, elle est intemporelle et elle met tout en lumière. Alors ma question est, qu'est-ce que la croix mettrait en lumière chez toi ? Il y avait trois croix à Golgotha. Il y avait trois croix qui résumaient l'évangile. Il y avait le sacrifice, le pardon, la relation restaurée en Jésus. Puis il y avait le brigand qui a dit oui à Jésus. C'était la repentance. Et il y avait le brigand qui a dit non à Jésus. C'était la rébellion. Là, il y avait déjà une image magnifique de l'évangile. Juste là, au moment où Jésus est crucifié. Il y en a un qui reconnaissait qu'il méritait la mort pour ses actions. L'autre était rempli d'orgueil et de scepticisme. L'un n'avait pas de foi encore, car il n'avait personne en qui croire. Il n'avait plus d'espoir. Mais il avait l'humilité de dire, moi je mérite d'être là, cet homme-là, c'est un homme saint. Il ne devrait pas être ici. Mais je trouve ça tellement beau que Jésus ait sauvé cet homme. Parce que c'est nous cet homme, hein, c'est chacun d'entre nous. Chaque personne qui est ici, on devrait être sur cette croix. Et on devrait dire, on n'a pas d'espoir, je dois payer pour mes fautes. Mais Jésus est là, il dit, non. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Oh, quel truc extraordinaire. L'autre, il est rempli d'athéisme. Tous les spectateurs pouvaient observer ce qui se passait à Golgotha. Certains érudits, donc certains spécialistes théologiens, expliquent même que Golgotha était sur une route, un croisement de chemin. Tous les visiteurs et habitants pouvaient voir ce qui se passait à Golgotha. Revenons aux gens présents au moment de la mort de Jésus. Il y avait des soldats également qui se sont partagés la tunique de Jésus. Il y avait également les fidèles, Marie, mère de Jésus, sa sœur, Marie de Magdala et Jean. Jean était présent et nous raconte les faits. Imaginez la dévastation de Jean. Jean, c'est intéressant dans son livre, il parle de lui un peu à la troisième personne comme ça, le disciple que Jésus aimait. Il ne parle pas de lui, il ne veut pas citer son nom, c'était une forme d'humilité. Hein. Mais Jean, c'était quelqu'un de très très jeune, peut-être même le plus jeune des disciples. C'était celui qui allait poser sa tête sur les genoux de Jésus. Il avait sans doute entre 18 et 20 ans quand Jésus est mort. Donc vous imaginez, c'était un peu une figure paternelle qui mourait pour lui. Un père. Il nous raconte ce qui arrivait à cet homme qu'il considérait sans doute comme un père. L'homme sur qui il reposait sa tête. Le verset 35 nous démontre le témoignage de ce disciple lorsqu'il nous a dit qu'il était là. Puis il y avait Nicodème et Joseph de la ville d'Arimathée. Les disciples secrets. Ah, ceux-là, moi, je les aime bien, les disciples secrets. Je ne sais pas pourquoi. Jésus, il ne les a pas rejetés. Je crois que c'est pour ça que je les aime bien. C'est parce que ce sont des gens qui sont en chemin dans leur révélation avec Dieu. Ils sont presque là. Ils vont accepter Jésus, mais... Il manque encore deux, trois enseignements, encore l'évangile, d'être proclamé dans leur vie, mais ils sont prêts, ce sont les disciples secrets. Ils sont juste des gens qui étaient en chemin dans leur révélation avec Dieu, mais qui n'avaient pas encore franchi l'étape de croire en lui. Ils le font mettre au tombeau par respect pour ses enseignements. Ils ont été touchés par Jésus. Ils ont été touchés par les enseignements de Jésus. La croix, elle révèle tout, le fond de chacun. Cela révèle même le caractère saint de Jésus, qui dans sa douleur pense encore à s'occuper de sa mère et de Jean. L'homme dans sa douleur se révèle et Jésus, lui, pense aux autres. Quel amour le Père a pour nous. Quel amour incroyable. Qu'est-ce que la croix révèle dans ta vie? Qu'est-ce que la croix, elle veut amener? Quelles sont les intentions que Dieu veut mettre à jour dans ta vie? Moi, je réfléchis beaucoup... à des noms pour une prédication. Quand je fais une prédication, moi j'aime bien donner un nom dessus. Et alors je trouve 40 noms, mais aucun me plaît. Alors après, j'ai pas de nom. Mais j'en ai trouvé un pour cette prédication-ci. Ça s'appelle le nettoyage de printemps. C'est samedi prochain, le début du printemps. C'est bien ça. Hein. Aujourd'hui, c'est le nettoyage du printemps. Qu'est-ce que la croix, elle veut révéler dans la vie? La croix révèle tout, le fond de chacun. Quel amour le Père a pour nous? Le Fils prodigue est un reflet du message de l'amour de Dieu pour nous. Alors, est-ce que vous imaginez ce Fils prodigue-là? Moi, le Fils prodigue, il me passionne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le jeune qui était cool. Le fils prodigue, c'était le jeune qui était cool, qui va voir son père un jour et qui lui demande « Papa, papa, donne-moi mon héritage, moi j'ai envie de découvrir la vie tout seul, et si c'est bien, mais pff, tu me prends un peu la tête, moi je vais y aller, je vais partir, et puis voilà, je vais aller m'amuser, tu me dois me donner ma part. » Donc on peut voir ici que le père, c'est un homme qui lui dit « Non mais attends, reste dans la maison, tu peux venir travailler ici, tu peux construire quelque chose, moi je vais t'apprendre la vie. » Le fils refuse. Non, 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 moi je vais la découvrir par moi-même la vie. Moi je sais, toi tu sais pas. » Alors le père, c'était un homme qui tenait à ses responsabilités, lui donne la part à qui ce fils revient. C'était une histoire de succession, hein. Donc il lui donne ce qui lui revient, et le fils s'en va. Souvent le fils prodigue, on le voit comme quelqu'un de pas très bien. Moi j'adore le fils prodigue. Parce que à partir du moment où il a donné son argent, il est cool, il fait la fête, il boit, les filles, il y a tout. Et puis à un moment donné, il n'y a plus d'argent. Alors quand il va voir les gens, ils ne lui répondent même plus. « Hey, tu te rappelles, c'était moi qui étais à faire la fête avec toi. » Les autres, ils ne le regardent même plus. Hein. Il n'y a plus d'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit trouver un travail avec des cochons. Il veut marquer que même la nourriture des cochons est trop bonne pour lui. C'était pas très bien, c'était vraiment pas bien. Et qu'est-ce qu'il fait dans toute son... Je ne vais pas le dire, mais s'il y a des cochons, il y avait beaucoup d'excréments. Hein? Qu'est-ce qu'il fait au milieu des excréments? Est-ce qu'il plaint sur son sort? Oui, au début, oui. Mais puis, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève et il se rappelle la promesse de son père. « Je me rappelle, dans la maison de mon père, tous les serviteurs sont bien traités. Même dans la maison de mon père, je mangerai mieux qu'ici. » Alors, il ne se laisse pas écraser par les circonstances. Il se relève. Alors, ça prend juste d'oublier sa fierté. Et ça, ce n'est pas facile. La croix révèle notre fierté. Hein. L'amour de Dieu révèle notre fierté. Alors après, c'est ça qui a fait partir le fils prodigue, c'est sa fierté. Hein. Moi, je sais mieux que toi, papa. Alors, après qu'il ait appris... par les circonstances de la vie, ce qu'on doit tous faire. C'est les circonstances de la vie qui sont encore les meilleurs enseignants. C'est Dieu. Il retourne vers son père. Et moi, je trouve ça génial. Son père l'attendait. Il était là, il le regardait au loin. Et qu'est-ce que la Bible, elle nous décrit? Que c'était vraiment un papa embêtant. Pourquoi? Je m'explique. Est-ce que vous vous rappelez vos parents quand ils vous couvraient de baisers? Je ne sais pas si vous avez eu ça, ou alors vos parents qui vous couvrent de baisers, et puis qui font encore les parents, même si vous avez 40, 50 ans, enfin, tu vois, ils sont toujours les parents, quoi. Et ils agissent toujours comme les parents. Et c'est un peu cet amour qui écrase, comme ça, c'est l'amour embêtant. Moi, j'appelle ça l'amour embêtant. Ça me rappelle ma mère, qui a un amour embêtant pour moi. Elle se mêle de tout. C'est par amour, mais de tout elle se mêle. Extraordinaire. Ça, c'est l'amour embêtant. Mais dans cet amour embêtant, il n'y a aucun moment où moi, je me demande, est-ce que ma mère m'aime? Il n'y a pas de doute dans cet amour. Et le père du fils prodigue, quand il le voit arriver, le texte nous dit qu'il le... C'est pas facile à traduire. Il le noie dans les baisers. Vous savez, noyer, c'est trop, hein, c'est étouffe. Hein. En anglais, ils disent « overwhelmed », ça déborde. Ça surabonde. Il le surabonde de baisers. Mais j'ai dit, quel amour il a, ce père? C'est une différence entre l'amour du monde narcissique et l'amour de Dieu. L'amour qui coûte quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les films, parce que les films, ça nous parle beaucoup. Et il y a un film qui est pour les jeunes et pour les moins jeunes, hein, ça s'appelle Transformers. Vous connaissez tous, hein? Ouais, voilà, vous connaissez tous, voilà. Et dedans, il y a une phrase qui revient souvent, qui est très connue. C'est « No sacrifice, no victory ». Sans sacrifice, pas de victoire. Sans sacrifice, pas de victoire. C'est l'amour qui coule quelque chose que le Père a pour nous. Ce n'est pas l'amour narcissique. Vous savez, quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, il y a toujours un truc qui vient. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Dans le mariage, dans les relations amoureuses, même des couples qui ont été pendant très longtemps, on a parfois le monde qui nous met une idée en tête, mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi? C'est très capitaliste, en fait. Qu'est-ce que moi j'y retrouve là-dedans? C'est pas un amour agapé, ça. C'est qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre? Quand je vois des jeunes gens qui cherchent leur personne pour leur futur, parfois j'ai l'impression qu'ils passent tellement de temps à trouver la bonne personne au lieu de devenir la bonne personne. Quel amour le Père a pour nous. Un prophète nous exprime l'idée de l'attente de Dieu à notre égard. On va prendre un autre texte. 2 Rois 5. Naaman est guéri de la lèpre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par les troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était près du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi en Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Ça, c'est quand même... C'était l'euro million, hein. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sache donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Il veut venir me faire la guerre, le roi de Syrie. Il est en train de me donner un truc que moi, je peux pas guérir un homme de sa lèpre. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi. » Imaginez, le mec, il arrive en costard, cravate, avec une Maserati à la porte et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le serviteur qui vient l'ouvrir. Il y a Élisée, il ne vient même pas rencontrer ce grand, grand général. Ouh, c'était de l'affront, hein. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Moi, je voulais que le feu tombe du ciel, qu'il y ait des étincelles, et puis qu'il y ait une explosion et que je sois guéri de la lèpre. Les fleuves de Damas, l'Albana et Parpar ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. La croix qui révèle en nous les attitudes nous amène à une autre révélation. C'est nous qui fixons l'action de Dieu dans nos vies. Imaginez, vous avez une rivière devant vous. C'est toi qui décides si tu mets de l'eau jusqu'à tes pieds, puis tu patouches dedans un petit peu, voilà, c'est amusant, on éclabousse le voisin. Ou alors tu vas jusqu'aux genoux, puis là ça devient un peu plus difficile, hein, essayer de marcher dans l'eau avec tes genoux là. Mais c'est chouette, c'est amusant, tu vois, tu te sens mieux, puis tu vas jusqu'à la taille, et tu te plonges à fond. Le Seigneur, il veut savoir à quelle distance on va venir de sa croix. C'est toi qui décides à quelle distance tu tiens de la croix. Je voudrais bien qu'on prenne 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17 jusqu'à la fin. Écoutez bien, c'est super. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il mit en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous, par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Maintenant, ça ne marche pas comme ça. Tu sais pas trop ce qui se passe quand tu deviens chrétien. Moi, quand je rencontre des gens qui viennent donner leur vie à Jésus, c'est puissant, c'est vivant, ils ont le feu, ils savent pas trop ce qui se passe. Mais ils ont le feu, quoi. C'est waouh, l'amour de Jésus pour moi. Les gens qui sont nés dans l'église, moi je suis né dans l'église, j'ai pas eu cette expérience de feu et d'un moment dans ma vie. Bon, c'est venu après, plusieurs moments où Dieu m'a révélé des choses personnelles, il m'a fortifié. Mais quand la passion, elle n'est pas omniprésente, et qu'on relit le verset de Paul, quand on est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, bon, les choses anciennes, écoute Benjamin, les choses anciennes, elles sont un peu encore toujours là. Hein. La nouvelle créature, le lundi matin, moi je ne la vois pas trop dans le miroir, plutôt la vieille. Là. Elle est où la nouvelle créature le lundi matin? On se demande si ça est vrai. On se dit « j'aime Jésus, mais je ne vois pas l'accomplissement de ses promesses ». Qu'est-ce qui se passe? On ne ressent pas toujours la passion en nous. Et quand on relit 2 Corinthiens 5, verset 17, eh ben ça ne marche pas. On a envie de dire à Paul « écoute, c'est bien tout ça, mais il y a encore des choses de l'ancienne créature qui sont encore là. Hein. » Si on essaie de voir ce passage comme si quelqu'un nous expliquait notre position et pas notre situation. Je redis ça. Si on voyait ce passage comme si quelqu'un nous exprimait notre position, pas notre situation. Paul utilise la métaphore 73 fois. En Christ, nous sommes en Christ. 73 fois, c'est important, ça veut dire. Christ était là pour réconcilier, devenir de l'hostilité à l'amitié. Dieu aime le monde, il en est obsédé par le monde. Le monde, ce n'est pas les gens qui sont entrés en Jésus. C'est tout nous quand on ne parlait pas encore de Jésus, quand on n'avait pas Jésus dans notre cœur. C'était nous les pécheurs. Dieu, il est amoureux de nous. Il en est obsédé. C'est son obsession. Mais il doit être conforme à son caractère. Nos fautes demandaient un prix de juger. Et la barre est tellement haute, mais elle est parfaitement consistante avec le caractère de Dieu. Dieu, il n'aurait pas pu venir sur terre après. Écoutez les gars, je suis désolé, j'ai mis la barre trop haut. On recommence tout, je vois tout le potentiel en toi, c'est très bien. Il ne peut pas faire ça parce qu'il est saint, il est parfait. Je partageais l'évangile avec quelqu'un qui se sentait née dans l'église catholique, elle se sentait bonne assez. Elle disait, toute cette histoire de péché, moi je trouve que ça ramène les gens en bas. Moi, je n'ai pas l'impression que je pêche. Et j'ai dit, ok, est-ce que tu as l'impression d'être parfaite? Mais non, personne n'est parfait. Voilà. Si tu n'es pas parfaite, tu as besoin de Dieu. Notre société nous enseigne, la situation nous donne la position. Le travail nous donne la position dans notre société. Ça, c'est ce que la société nous donne. Paul parle d'une société, il est à Corinthe, ces gens ils s'adressent à Corinthe, c'est genre New York, Amsterdam et Dubaï mis ensemble, toutes les mauvaises parties de ces villes, vous les mettez ensemble, c'était Corinthe. Et il utilise un vocabulaire tellement fort. Vous êtes dans un nouvel univers, en Christ. Ça veut dire que le domaine d'action, notre vision du monde, quand nous sommes en Christ, elle doit changer. Notre vision du monde, elle est totalement différente. Là où avant notre comportement dictait notre position, aujourd'hui c'est ta position qui dicte ton comportement. Et c'est quoi ta position? C'est la plus haute position possible dans tout l'univers, en Christ. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Est-ce que ce n'est pas spectaculaire? Comment est-ce que tu es arrivé à faire tout ça, tout ce ministère, en Christ? Comment est-ce que tu arrives à résister au péché en Christ? Là où Christ nous rend libre, on est vraiment libre. Tu es accepté, tu es saint, tu appartiens à Dieu. Malheureusement, nous sommes programmés à penser que notre position change avec notre comportement. On est programmé, c'est notre société, on a l'impression que si notre position elle est directement, enfin, elle est directement en relation avec notre comportement, si j'agis mal, ben, la grâce de Dieu, plus trop pour moi. Pas du tout. Et on fait tout pour travailler en nous. Moi. On fait tout pour essayer de changer notre comportement, pour avoir notre position. Alors ça devient l'église de moi. Un prédicateur a dit, la loi de l'Ancien Testament, la loi, c'est regarder à toi. La grâce, c'est regarder à Jésus. Et on tente de faire le travail de Dieu par nos forces. Et il n'y a pas de puissance. Alors Dieu, lui, je sais pas, moi, voilà, je vois qu'il fait des choses. Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Je vois ça, merci. Tu es intervenu, écoutez, personnellement, intervenu dans mes études. Il y a quelqu'un qui s'est amené, il m'a dit, je paie tes études. Quelqu'un d'autre s'est amené, il m'a dit, je te paie un ordinateur. Il y a 4-5 personnes qui sont à me soutenir pour travailler dans l'église. Extraordinaire, Dieu, merci beaucoup. Et je sais pas pourquoi, je retombe toujours dans le mécanisme. Bon, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Moi, je continue à faire mon travail. Voilà, hop. On va faire... Oh ouais, c'est beau ce que tu fais, Jésus, c'est vraiment magnifique. Regarde ici, moi j'ai fait... Va, hop là, voilà. T'as vu, j'ai fait un avion en papier. Bon, l'instant là, Dieu, elle a construit 3 maisons, il y a 2 ministères qui sont nés. Mais je continue à essayer de faire ça par mes forces. Mais la puissance, elle n'est pas là. Hein. La puissance, elle n'est pas dans ce que nous, on peut faire. La puissance, elle est en Christ. Et il faut un changement, ça s'appelle un changement de paradigme. Quel mot compliqué, mais non, c'est pas du tout compliqué. C'est un changement de la façon dont on perçoit et on voit le monde. Où est la puissance de surmonter le péché? En Christ. Imagine, moi je veux te défier. La prochaine fois que tu es tenté. Tu regardes ton péché et tu dis, moi je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. La prochaine fois que tu es tenté. Je suis la justice de Dieu en Christ. Vous imaginez comment c'est fort, justice de Dieu en Christ. C'est magnifique. Je suis la droiture de Dieu. En lui, je suis aimé, je suis accepté, je suis complet. Tout cela est en Dieu. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un, n'importe qui. Il n'y a pas à regarder ce que toi t'as fait. Ça ne dépend pas de nous. Hein. On regarde la croix, on voit ce que Jésus a fait pour nous et on se met devant la croix. La croix, elle révèle nos attitudes. Elle révèle le fond de notre cœur. Hein. Ce n'est pas facile. On doit alors déposer notre fierté comme le fils prodigue. Il faut se reposer face à Dieu. Il faut faire ça souvent. Le nettoyage de printemps. Il arrive parfois que dans la vie chrétienne, on arrête le combat contre la chair. Moi, j'ai vécu ça. D'autres chrétiens qui ont vécu ça. On devient fatigué. On oublie que c'est en Christ qu'on vit. Et on essaie de faire les choses par nous-mêmes. On essaie de nous... y arriver. Et après, évidemment, on est découragé. Et on baisse les bras. On aime Jésus, hein, ça, il n'y a pas de problème. On est amoureux de lui, il n'y a aucun problème. Mais comme on oublie de regarder à la croix, parce qu'on regarde trop notre nombril, eh bien, on arrête de lutter contre cette chair. Aujourd'hui, moi, je veux dire qu'on peut retrouver notre feu pour Jésus. En comprenant que notre position nous indique notre comportement et pas l'inverse. Dieu a tellement donné. Moi, Je vois tellement de jeunes gens qui stressent pour leur avenir. Et la plupart des gens que je vois ça, c'est les gens qui aiment Dieu. Les jeunes gens là, qui aiment Dieu. Là. Vous savez, ils ont une relation avec lui, ils sont passionnés. Et alors, ils stressent vraiment pour leur avenir. Et moi quand, enfin, c'est bizarre, mais quand je vois des jeunes, le Saint-Esprit me parle souvent. Et il me dit, regarde comment ils sont beaux. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces jeunes. Oh, regarde, ils m'aiment tellement. Qu'est-ce que je prends plaisir à être en eux. Mais qu'est-ce qu'il est joli, mais qu'est-ce qu'il est beau à avoir une relation avec moi. Cela me surprend toujours parce que si Dieu veut te dire quelque chose, il va te le dire. Tous ces jeunes qui stressent mais qui aiment le Jésus, eh bien Jésus il va venir te parler s'il a quelque chose d'important à te dire. Ça on ne peut être sûr. Parce que si tu restes en Christ, si tu ne laisses pas la vie et les circonstances de la vie éroder cette vision du monde qu'on n'est pas par nous-mêmes mais par Christ, eh bien ne t'inquiète pas, si Dieu il a quelque chose à te révéler, tu peux être sûr qu'il va venir te le dire. Parce qu'il est fidèle et il est juste. Et il ne va pas t'abandonner. Hier, je pensais à tout ça dans l'appartement en haut. Et je ne tenais plus. Je marchais, je réfléchissais, je ne tenais plus en place. Paul, l'apôtre Paul, il applique cette vision du monde, mais c'est extraordinaire. Il dit, regardez ce que Christ a fait pour nous. Position. Regardez ce que je fais. Comportement. Position indique le comportement. Il dit, je travaille dur. Et puis il ajoute, mais c'est pas moi, c'est Christ, parce que je suis en lui. On est tellement obsédé et passionné par ce que Christ fait pour nous que c'est là que tu peux y arriver. On appelle ça la zone de grâce. Elle est spécifique à ton appel, à tes dons, à la révélation de Dieu pour toi. Si tu travailles dans ta zone de grâce, il y a des choses surnaturelles qui arrivent. Il y a des rencontres divines. Il y a des forces surnaturelles. Moi, si le ministère commence à fatiguer, je vais me poser des questions. Si le ministère muse, si travailler dans les églises, ça commence à muser, à avoir une pression sur moi, c'est que j'ai arrêté de regarder à Christ. Hein. Parce que quand on est dans la zone de grâce, le Saint-Esprit vient nous donner des forces. Le Saint-Esprit vient nous donner de la passion, du feu, de l'amour pour les gens. Et là où tu pensais que ta chair allait gagner, eh bien tu te rends compte que tu as des forces surnaturelles. Pour ça, il faut rester en Christ. Paul était obsédé par ce que Christ a fait pour lui. Ça lui donnait la force de continuer. Donc à la fin, il dit, mais à la fin, le travail que j'ai fait, ça sert à rien. Hier, Timothée, il m'a demandé si j'étais stressé quand je préparais une prédication. Puis, je n'avais pas pensé à ça avant, donc je fais, ouais, peut-être pendant la semaine. Mais quand j'ai tapé, ça va, c'est bien, ça repose sur Dieu. Puis j'ai un peu réfléchi. Ben, en fait, à chaque fois que je dois préparer un message à donner aux gens, le Seigneur, il est là pour rencontrer. Donc, il n'y a même pas de comportement parce qu'on est en Christ. Je vais demander à Camille de revenir faire un chant. Et pendant ce temps-là, je voudrais qu'on prenne du temps. Il nous reste au moins un quart d'heure. Là. Qu'on prenne du temps pour se positionner devant la croix et réfléchir, c'est quoi mes attitudes dans l'église, dans ma vie, dans ma famille? Est-ce que je vis stressé et fatigué? Ou est-ce que je vis détendu parce que je suis en Christ? Est-ce que j'essaie de travailler à ma position? Ou est-ce que, parce que j'ai une position extraordinaire à la droite de Dieu, eh bien, je suis passionné pour changer, pour continuer à changer les vies, pour continuer à être une influence dans la société, là où je suis, à mon école, à mon travail? On est tous les mêmes devant Dieu. Il n'y a pas de gens qui... Personne ne mérite. Hein. Moi, je voudrais qu'à aucun moment donné, j'arrive dans ma vie et parce que je travaille dans l'église, les gens pensent que ce que je dis, c'est pas pour eux. Je n'aime pas les gens qui travaillent dans l'église et qui ont l'air trop saints. Parce que... Alors, et quoi? Tu vas dehors, tu parles à quelqu'un qui est dans des difficultés, qui est devant des monstres, des Goliaths. T'arrives plus à connecter avec eux. Mais si on regarde tous la croix, c'est pas important la distance. Si on est comme les fidèles qui sont devant, si on est est comme Jean qui pleure pour son père qui est mort, ou si on est comme Pierre qui l'a renié trois fois. C'est pas important du moment qu'on regarde Jésus. On va laisser une action au Saint-Esprit de pouvoir agir maintenant. Je veux laisser ouvert également pour les gens qui veulent la prière. Si vous voulez la prière, moi je suis sûr, il y a le pasteur et les anciens. On peut prier ensemble, on peut se tenir ensemble, parce que c'est ça l'Église, c'est des gens qui se tiennent ensemble pour tous rester en Christ. Ça va ?